Raphaël Entoven, il y a une question que tout le monde voudrait poser au philosophe, mais personne n'ose. Alors je me lance. Comment on épelle Nietzsche?
Comment quoi?
C'est bien. Super.
On va commencer par comment on le prononce déjà.
Ça s'épelle Nietzsche.
Ouais, exactement.
Nietzsche. Voilà.
Mais il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler ou ça se prononce comme
non,
ça?
Non, il n'y a aucun moyen mnémotechnique. Il faut juste ramer, il faut faire un effort. C'est comme ça. Uh-huh. C'est Nietzsche, mais ça se dit Nietzsche, ce qui est plus facile.
Raphaël Entoven, dans votre livre Nouvelle morale provisoire, vous dénoncez le flot continu de l'information, notamment sur Internet. Pourtant, vous-même, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que votre livre, c'est une forme d'autocritique aussi?
Non, je ne le dénonce pas du tout. Au contraire, je dis qu'on est milliardaire en news, mais qu'on ne sait pas en profiter. Ouais. Je dis qu'au contraire, on vit comme un gavage ce qu'on devrait recevoir comme un anniversaire quotidien. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est le Père Noël, les infos. Ce n'est pas du tout une invasion. C'est au contraire un trésor. On est milliardaire et on ne sait pas s'en servir. Donc, j'essaie dans ce livre humblement de montrer que des trucs qui nous accablent et qu'on essaie d'oublier parce qu'on a besoin de respirer sont en fait des trucs passionnants où on peut prélever des diamants, de l'or et des rigolades.
Vous avez toujours cette voix chic un peu.
Elle est en train de vous draguer.
Non, pas du tout, mais à côté comme ça, un peu comme ça.
Mais vous savez, en fait, c'est que...
On sent que vous venez pas d'un milieu populaire.
Ah bon?
Ça veut dire quoi, ça?
Mais qu'est-ce que vous savez de mon milieu?
Non, mais la manière dont vous parlez, quand même, il y a une forme d'élégance.
Vous voyez que je vais l'aider comme ça?
Un peu.
Ah bon? Non, c'était vous, ça. Non, sur scène, enfin, bon, peu importe. D'accord, peut-être si vous le dites.
Et vous pourriez prendre une voix un peu plus prolo, Raphaël Entoven?
Je sais pas. Oui, certainement, mais j'aime pas me donner en spectacle. Donc je le ferai pas ici.
Bah, vous aimez pas vous donner en spectacle? Vous adorez faire du théâtre, vous dites, c'est là où vous en...
J'adore faire du théâtre.
Et en même
absolument.
Temps, c'est
on va sur scène ensemble quand vous voulez. Hein, et là, je prends la voix que vous voulez.
Ce qui me fait rire, c'est que c'est Anne Roumanoff qui vous dit, mais c'est vrai que vous avez une élocution. c'est gonflé.
Non, mais vous dites, vous avez fait 10 ans de théâtre avec les anciens de Normal Sub, une troupe qui s'appelait Archicube, et vous dites que c'est là.
Ça s'appelle toujours d'ailleurs.
Vous êtes le plus heureux sur scène, le plus à l'aise.
Je n'aime rien tant que les estrades, les scènes, tous ces endroits, le studio de radio quand la lumière rouge s'allume et qu'on est sans fil. C'est les moments où je suis tranquille, en fait. C'est les moments où je suis serein, parce que c'est les moments où on est débarrassé de soi-même. On ne peut pas penser à soi quand on est exposé, quand on est en danger, quand on est sans filet. On ne peut pas penser à soi, on ne peut pas s'encombrer de soi-même. Donc, c'est des moments où on est libre de soi.
Est-ce que vous avez joué des rôles de prolo, justement?
J'ai joué à peu près tous les rôles. En 10 ans de théâtre, vous faites beaucoup de choses différentes. J'ai joué des connards brutaux. J'ai joué
alors
des,
ça donne quoi,
des
Raphaël Entoven en connard brutal?
Mais je vous montrerai tout à l'heure. Si vous voulez. Vraiment, là encore, c'est vraiment dans un studio, c'est délicat. Voilà.
Et vous aimeriez faire du cinéma ou des choses comme ça?
Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question.
On vous a proposé?
Oui, mais...
On vous a proposé quoi comme rôle?
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je tairai, par charité pour ceux à qui j'ai dit non, je tairai leur nom. Donc voilà.
Mais alors, vu le genre, moi je dirais camping.
Oui. Alors vous seriez surpris, absolument. J'ai même essayé le slip bleu. Enfin voilà. Donc, mais là encore, je peux pas montrer ça ici, même à Europe.
Alors Raphaël Entoven, vous posez des questions concrètes dans votre livre Nouvelle morale provisoire aux éditions de l'Observatoire. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment d'ailleurs pour un philosophe des réponses tranchées à ces questions, ou est-ce que ce livre c'est juste une invitation au débat? Parce que est-ce qu'à la fin d'une discussion philosophique, il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison, ou alors tout le monde a raison et personne n'a tort?
Ça dépend de la discussion. Ça dépend de la discussion.
Ça doit être impossible dans la vie privée de discuter avec un philosophe.
Au contraire, je crois. Enfin, j'espère. Je ne sais pas.
Oh bah non, si j'imagine que. Alors là, j'imagine. Vous devez faire des pirouettes. La fille, elle ne comprend plus rien.
Des pirouettes. Je mets les pieds sur la tête.
Non, mais c'est compliqué, quelqu'un qui a une telle brillance intellectuelle pour discuter vraiment des choses.
Discuter des choses, c'est quoi? C'est être capable de changer d'avis quand on parle d'un sujet, c'est tout. C'est arriver avec le moins de certitude possible. Il y a une phrase vraiment qui est belle comme tout, qui dit « n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi ». Donc en gros, quand vous croisez des gens qui sont absolument sûrs de ce qu'ils racontent, qui croient tout ce qu'ils pensent, c'est qu'ils n'ont pas approfondi la chose. Donc mon boulot, c'est d'arriver avec une petite pelle dans ces cas-là et de creuser un peu pour montrer éventuellement à la personne qui est pleine de ses convictions que peut-être, il y a une autre façon de penser.
Oui, mais alors, excusez-moi, mais ce côté de dire tout est possible, tout est valable, il ne faut pas avoir de conviction. Il y a un moment.
Ça te perturbe.
J'ai pas du tout dit ça. Hein. J'ai pas dit que tout était
mais
valable.
Mais en même temps, elle a dit qu'elle n'avait rien compris.
Ah, mais d'accord, voilà.
Vous avez 43 ans, Raphaël Entoven, vous avez une œuvre quand même qui est déjà très conséquente.
C'est vous qui le dites, ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ah jusqu'ici. Bon ah oui, non, j'ai l'impression que rien n'a commencé. Mais c'est un sentiment qu'on partage tous, non?
Vous n'avez pas l'impression? Moi, ah, non, pas... moi je suis un peu au top de ma carrière.
Non, moi, j'aime pas trop le côté je me regarde dans une glace avec mes médailles en disant c'est pas mal ce que j'ai fait jusqu'ici, etc. Ce qu'on a fait, on l'a fait. Ce qu'on a fait, on l'a fait. La seule chose qui existe peut-être
c'est
encore,
ce qu'il
c'est
reste ce qui... à faire.
Voilà, c'est ça. J'ai du mal avec la complaisance dans le passé, quoi. Le brandir mes médailles, bomber le torse et me flatter de ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, comme son nom l'indique, ben je l'ai fait. Voilà, c'est fini.
Vous avez une humilité en fait qui se voit pas de prime abord.
Ah bon.
Sympa.
Non, mais... Elle est toujours délicate.
Non, mais c'est vrai. En fait, finalement, vous êtes humble, Raphaël Enthoven.
C'est à vous de me le dire. Je suis mal placé pour vous dire. Si je vous disais, ah oui, je suis humble, vous savez. Je vais citer Rousseau. Tiens, vous savez, Rousseau disait, et c'est lui qui a inventé ça, il a dit, je crois que nul homme, jamais, n'eut moins de vanité que moi. Ce qui est vraiment la formule de l'orgueilleux par excellence. J'adore. Donc, je vais pas vous dire, ouais, je suis super humble. Ce serait bizarre, non? Je suis champion du monde de l'humilité.
Mais vous comprenez que parfois vous pouvez agacer les gens par votre côté, justement, cette facilité à manier le verbe, cette voix un peu...
Les gens que j'agace pour cette raison-là ne m'intéressent pas. Les gens que j'agace parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi et que j'essaie de leur montrer des arguments et que j'essaie d'accéder à la discussion avec eux, cela m'intéresse. Les gens que j'agace parce qu'ils trouvent que je parle trop vite, je m'en fous, c'est leur problème, c'est pas le mien si vous voulez, je parle comme je peux. Mais en revanche, les gens que j'agace parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on arrive malgré tout à construire une discussion, là ça m'intéresse.
Moi au contraire, je trouve que c'est comme écouter du piano. On peut écouter ça pendant des heures. C'est vrai.
Merci pour le ça.
Ouais. Non, excusez-moi, c'est pas réducteur.
Non, ça va,
mais...
non, mais je prends le piano, ça va.
Des heures, faut le dire vite quand même. Hein.
Non, c'est
quand on est élève, on n'a pas le choix.
J'ai une petite question, moi, tout de même, parce que vous avez fait la distinction tout à l'heure entre un prof de philo et un philosophe. C'est quoi la différence? C'est le succès, c'est quoi?
Non, c'est que je suis mal placé pour me désigner moi-même comme philosophe.
Bah
oui, c'est les gens disent, ils ont collé l'étiquette philosophe. Et en général, ils disent, alors les gens décrètent que vous êtes philosophe, ils décrètent que vous êtes philosophe autoproclamé, ce qui est extraordinaire. Vous ne le dites jamais vous-même, mais on vous a proclamé philosophe autoproclamé. Je suis prof de philo parce que j'ai passé des concours qui permettent d'exercer cette profession. Et je peux dire objectivement et en toute rigueur qu'effectivement, je suis prof de philo.
Mais vous n'êtes pas philosophe alors ? C'est pas à vous de le dire.
Je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire.
Quels sont les philosophes contemporains que vous appréciez, Raphaël Enthoven ?
J'aime au-delà de tout un philosophe qui est mort l'an dernier, qui s'appelle Clément Rosset, qui a écrit un livre qui s'appelle notamment. Il a écrit beaucoup de livres et des chefs-d'œuvre. Il en a écrit un notamment qui s'appelle Le réel et son double. Et je le cite parce que c'est un livre qui date de 75 et c'est un livre dans lequel il se prend, même s'il ne les nomme pas comme ça, les fake news. C'est le meilleur déconstructeur de l'idée même de fake news et du rapport au réel. C'est le philosophe du réel. Et il travaille sur toutes les façons qu'on a d'esquiver le réel. Il est très drôle, il est merveilleux. Je le dis à l'antenne, son livre s'appelle Le réel et son double. J'espère que des gens auront la curiosité d'aller y
vous
voir.
Vous pouvez répéter son nom parce que Anne n'a pas
Clément
noté.
Clément Rosset.
Si j'ai noté. Mais ça suffit. Ben Nash a des choses à vous dire, Raphaël Enthoven.
Oui. Alors sachez avant tout que face à vous, Raphaël Enthoven, je n'emmène pas large à exposer mes mots à un homme de lettres, mes réflexions à un homme qui pense. Moi, servir à une chronique à Raphaël Enthoven, j'ai l'impression de servir un McDo à Philippe Etchebest. Et paradoxalement, c'est ça qui est marrant, pour mes collègues chroniqueurs, ce même papier, c'est du caviar. Ah, comme quoi, ah, chacun son niveau, les copains, on est bon esprit. Qu'on se le dise à l'entame de ce billet, ma plume se déplume, ma voix passe en mode vibreur. Si au bac, la philo était une épreuve orale, quelle chance de la passer ce midi face à vous, Raphaël Enthoven. Bref, à l'image d'un philosophe qui manie l'allégorie pour mieux se faire comprendre, je resterai dans le lexique imagé du bachelier pour vous résumer ainsi la situation. Ce midi, Raphaël Enthoven, je me chie dessus. Et pour cause, il n'y a qu'à entendre notre invité parler de Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir envie d'être sous le feu de l'éloquence de monsieur Enthoven. C'est le seul mec, quand il te clash, tu as besoin d'une bibliothèque pour comprendre les attaques. Pourtant, derrière le philosophe, il y a forcément un être humain, comme tout le monde. Même Platon pouvait aller se gratter un bingo PMU en allant parler avec bêtise de la bêtise. Et en parcourant votre bio, Raphaël Enthoven, deux thématiques récurrentes dans votre œuvre m'ont sauté aux yeux. Marcel Proust et le clitoris. Alors, ça nous est déjà un point commun.
Le clitoris n'était pas du tout l'obsession de Marcel Proust, d'ailleurs.
Non, aucun rapport. Mais lequel des deux, ce point commun, indice, Raphaël, je ne suis pas trop littérature. Même si, je l'avoue, mon légendaire égoïsme me pousse à penser que le clitoris, dans le fond, c'est un petit peu à la recherche du temps perdu. À mon sens, le philosophe, c'est celui qui se pose les questions qu'on ne se pose pas. Mais quand on finit par se les poser, on réagit toujours en passant par les deux mêmes étapes. Première étape, Deuxième étape, bah ouais, bonne question. Par exemple, une question au hasard présente dans votre dernier ouvrage. Si Dieu existait, aurait-on besoin de croire en lui ? Bah ouais, bonne question. Ça m'avait fait déjà le coup à l'épreuve de philo au bac. J'ai eu la question. Les lois sont-elles l'œuvre de la raison ? Bah ouais, bonne question. Et ce qui est bien avec la philo, c'est que chaque question entraîne non pas des réponses, mais d'autres questions. Par exemple, la question que j'avais eue au bac, les lois sont-elles l'œuvre de la raison, m'a mené immédiatement vers une autre question. Mais qu'est-ce que je fous là ? Et parce que la philosophie, c'est avant tout un échange. Mon père aussi s'est mis à poser des questions après avoir reçu ma note. Fiston, connaissant bien ta mère et d'un point de vue strictement génétique, comment tu peux être aussi con ? Ce à quoi tu réponds inévitablement, bah ouais, bonne question. Puis par la suite, mon rapport à la philosophie s'est limité à la lecture des livres de Loana et à mon meilleur ami, Bruno, qu'on appelle le philosophe pour sa capacité à poser aussi des questions qu'on ne se pose pas. Par contre, lui, il ne puise pas son savoir dans les livres, mais dans le chardonnay. Et par exemple, samedi soir, en fin de soirée, il est venu nous dire bah ouais, bonne question, Bruno. C'est tellement important de se poser les questions, Raphaël Enthoven. Dans une société où chacun pense avoir sa vérité et où personne ne confronte plus ses réponses, à une époque où les médias regardent le monde de toujours plus près pour avoir justement ces mauvaises réponses, il serait bon de prendre plus de recul pour se poser les bonnes questions. Alors que se taisent les polémistes et que s'expriment les philosophes, Raphaël Enthoven, une fois n'est pas coutume, merci de m'avoir écouté.
Ouais.
Bonjour, c'est Louis Testu.
Bonjour.
Alors, dans cette version de la pièce de Marivaux, l'Eurostratagème, l'intrigue est transposée à l'époque des années folles. Du coup, vous jouez une comtesse qui ne porte pas des grandes robes de comtesse, vous n'êtes pas trop déçue ?
Non, je suis déjà très 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 contente parce que j'ai des talons hauts.
Ah,
ce
oui
qui m'arrive assez rarement. J'ai l'impression qu'avec l'âge, je gagne un peu de grade. Donc ça me fait très plaisir, ma robe est très belle. Non, en fait, il l'a transposée.
Ladislas Chollet, le metteur en scène.
Voilà, le metteur en scène l'a transposée dans les années folles parce qu'il y a ce début, en fait, de volonté, de liberté, mais des deux côtés, de la part des femmes et des hommes. Il avait envie de ça, et il avait envie de des prémices de la décadence, quelque part des soirées qui sont alcoolisées, des rapports qui deviennent plus charnels qu'intellectuels, et il voulait que ça se sente, et je crois que ça se sent beaucoup dans sa mise en scène et dans le décor, et dans ma belle robe, et dans celle de la marquise qui est absolument sublime aussi.
Vous êtes aux côtés d'Eric Esmolino ?
El Mosnino, oui, qui joue donc le personnage que moi je quitte, que je crois ne plus aimer.
Dorante,
exactement. En fait, ça parle un peu de fidélité. Il y a la fidélité du cœur et la fidélité du corps.
Ah bon, vous trouvez que c'est pas la même chose, Sylvie Testu ?
Eh ben, à ce moment-là, de la pièce, au tout début, mon personnage trouve que ça n'est pas la même chose. Et étonnamment, j'arrive à le dire avec beaucoup de sincérité, je crois.
Vous croyez quoi ? Vous croyez aussi que c'est pas la même chose ?
Non, mais il y a des moments où les gens infidèles penchant.
C'est bien, on rentre vite dans le sujet.
C'est ça.
Mais c'est les gens infidèles qui disent que ça n'a rien à voir, le corps et le cœur. Mais
alors, je ne sais pas si les gens infidèles sont des gens qui ne sont pas toujours amoureux de la même personne, ou ce sont des gens qui ont envie de se tromper eux-mêmes à un moment, sortir de leur vie eux-mêmes. Et d'ailleurs, Marivaux, c'est un peu ce qu'il dit au tout début. C'est-à-dire qu'il fait, il plaide en faveur des femmes, il plaide en faveur du moment présent, qui dit à ce moment-là on peut chavirer, ce qui ne remettrait pas en cause toute une vie. C'est la personne en face.
Et vous pensez quoi, Sylvie Testu, vous ?
Moi, j'ai un doute.
Vous êtes en couple depuis très longtemps ?
Oui.
Et alors ?
Oh, bah, y a eu des, on va dire, des coupures.
Des coupures.
On va dire ça comme ça. Ouais. Qui n'ont pas toutes été de sa faute. Ça va, ça ?
Ouais, moi, je bois les paroles. Hein.
D'ailleurs, vous dites le cœur et le corps, c'est ça, je vais quand même m'en servir.
Vous dites que c'est une pièce très féministe, Sylvie Testu, l'Eurostratagème ?
Je ne sais pas si elle est féministe, mais en tout cas, elle s'intéresse aux femmes. Elle s'intéresse au fait qu'il n'y a pas la femme, mais des femmes différentes.
Vous dites, Marivaux interroge comme aujourd'hui sur le désir et l'amour. C'est une pièce très humaine et qui ne donne pas de leçons ?
Alors, qui ne donne pas de leçons sur son envie, sur son désir, sur le charnel. En revanche, qui a envie de porter une morale sur le respect qu'on a de l'autre. Et comment on fait pour ne...
Ah d'accord, il faut tromper l'autre avec délicatesse.
Exactement. Avec respect.
C'est très joli, ça aussi, c'est très joli.
Et comment vous faites, vous, pour tromper l'autre avec délicatesse ?
Avec discrétion, en fait.
Mais je cherche encore.
Vous n'avez pas la solution ?
Non, sans ça, je n'aurais pas fait cette pièce. Je n'aurais pas lu ce texte avec autant d'attention. En espérant
il a fait écho.
Trouver une solution. Je crois qu'on ne la trouve jamais, la solution.
Il a fait écho à vos interrogations, ce texte.
Oh, je pense qu'il fait écho à toutes les interrogations, enfin à beaucoup de monde, parce qu'on entend d'ailleurs, suivant les répliques, Alors les gens rient beaucoup, mais par moments on entend que le rire est plus féminin et par moments on entend un rire plus masculin, notamment quand moi je suis d'une grande mauvaise foi, enfin mon personnage, on entend les hommes hurler de rire. Ah et là, il n'y a presque plus de femmes. C'est très étonnant.
Alors, ces imitations, vous avez eu beaucoup plus souvent sur les écrans que sur les planches. Vous avez dit, pour moi, l'important est de justifier le fait de revenir tous les soirs sur scène. Il faut donc un bon texte pour réinventer, explorer des situations.
Oui, c'est ça. Alors, ça faisait longtemps là, que je n'en avais pas fait. Et en fait, j'ai peur de l'ennui, moi, souvent. J'ai peur de faire le tour des choses, le tour d'un texte.
Le tour d'un homme.
Voilà, la diamant, moi. Je n'osais pas trop le dire, mais bon. Et c'est vrai qu'au cinéma, quand on a bien réussi une scène, on est entré dans un sentiment. Voilà, il est derrière nous, il n'y a pas besoin de s'y replonger. Là, au théâtre, évidemment qu'on a envie de se dire, je vais jouer comme si c'était la dernière fois. Sauf que le lendemain, il faut le faire. Donc, il faut toujours essayer de trouver quelque chose qu'on n'aurait pas découvert. Sans ça, l'ennui arrive. Et si l'ennui s'en mêle, moi, je pense que je n'ai pas les capacités.
Là, vous allez être dans le film de Michel Denisot. Vous venez de terminer une série pour TF1. Vous êtes très occupée. Vous aimez être une actrice très occupée?
Oui, je crois que je travaille mieux dans l'urgence.
Parce qu'il y en a une qui vous a dit une fois, non, je déteste, je préfère pas travailler du tout.
Et là, vous écrivez un bouquin sur l'éducation des enfants.
Ouais, alors je suis très en retard parce que comme ils ne sont pas encore très grands, tous les jours ils m'en arrivent et tous les jours j'en rajoute. Et comme je veux que mes bouquins ne fassent que 200 pages, là je suis en train d'écrire l'encyclopédie universaliste.
Là vous en êtes à 900 pages.
De la mer débordée, quoi. Au plus.
Plus ?
Ouais, plus.
Sur les enfants ?
Il va falloir couper. Mais sur les enfants ou sur moi qui ai un mal fou, un mal de chien à m'en sortir.
Vous avez combien d'enfants ?
J'en ai que deux, heureusement.
Ouais, et dans quel âge ?
14 ans et bientôt 9 ans.
Et vous avez du mal ?
Bah, comme toutes les mères, je crois, par moments, je suis débarquée.
Pas du tout, au moins. Ben H a été voir votre pièce, Sylvie.
Oui, tout à fait enchanté. Donc, Ben H, critique théâtre. si, j'écris dans notamment l'illustre magazine biannuel Les Cahiers du Rideau Rouge, un magazine qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à l'univers du théâtre, évidemment, mais aussi à l'univers des rideaux. Rideau rouge en particulier, mais aussi rideau occultant ou le fameux rideau pharyngite. Oui, un magazine qui aime le jeu de mots, ambiance bonne enfant. Sylvie Testu, bonjour.
Bonjour.
Sincèrement ravi de vous rencontrer. D'un point de vue strictement artistique et quasiment par définition, j'aime les grandes actrices. Et d'un point de vue plus personnel, je vous adore, vous, Madame la Comtesse. Et oui, je vous appelle Comtesse Sylvie Testu car j'ai vu la pièce dimanche, en matinée, comme on dit, 16h. Le rideau se lève dans le sublime théâtre Édouard VII. Un très beau décor me saute aux yeux, une ambiance s'installe, la pièce commence, les premières répliques fusent. Puis vous, Sylvie Testu, vous entrez sur scène. Vous y interprétez une femme libre, capable de vous rendre fou d'elle si vous lui êtes inaccessible, mais qui se lassera immédiatement de vous une fois que votre cœur est dans sa main. Une sorte de « tu me suis, je te fuis, tu me fuis, je te suis » pousse à l'extrême, où les femmes mènent la danse. Marivaux, en 1700, il n'a pas attendu l'éphémène MeToo et Marlène Schiappa pour donner le pouvoir aux femmes. Qu'elles soient comtesse, marquise ou domestique, l'œuvre est tellement progressiste, manquait plus qu'un valet à son coming out et cette pièce était un film Netflix bien écrit. Bref, si on ajoute les brillantes performances aussi bien au niveau de la mise en scène que de l'ensemble du casting, on se retrouve avec une grande pièce de théâtre dans un grand et bel écrin. Oui, mais voilà, il y a un hic. Alors, c'est très personnel, vous n'y êtes pour rien, Sylvie Testu, mais voilà, je viens de me faire larguer. J'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, mais... La douleur est encore vive, Sylvie. La cicatrice n'est pas encore refermée et dans votre personnage de comtesse Sylvie Testu, j'ai eu l'impression de voir mon ex pendant tout le premier acte. Manipulatrice, froide et dépourvue d'empathie. Quand votre personnage prononce cette réplique adorante, l'homme à qui vous brisez le cœur, je la cite, alors je peux commencer, vous la finissez si vous voulez. Est-ce de l'amour que vous voudriez que j'eusse et que je n'ai point ?
Ce n'est pas ma faute s'il ne m'est pas venu.
Il vous est fort
permis de souhaiter que j'en ai, mais de venir me reprocher que je n'en ai point. Cela n'est pas raisonnable.
Les sentiments de votre cœur ne font pas la loi du mien. Bah quand c'est dit avec les mots de Marivaux, c'est presque classe. Quand c'est dans la bouche de mon ex-copine, ça correspond à « Mais c'est pas parce que t'es amoureux de moi, Ben, que je peux pas coucher avec d'autres mecs, enfin !» T'es sérieux ou quoi ? T'es complètement fou ! Bref, je suis encore trop fragile, mais tout ça pour dire qu'en tant que critique théâtre parfaitement fiable, vous l'aurez entendu, je recommande la pièce Les œufs fermés, même si vous aussi, vous avez connu mon ex. Merci d'avoir écouté.
Alors, est-ce que c'est dur, Philippe Etchebest, d'être un chef cuisinier médiatique ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous n'avez pas eu peur de vous noyer quand vous faites des interviews, vous faites des tournages ? À un moment, un chef doit être derrière ses fourneaux.
Oui, absolument, c'est vrai. Il doit être derrière ses fourneaux et parfois, il ne l'est pas. Mais je dis souvent, quand je suis à la... Vous savez, j'ai une table étoilée en bas, en sous-sol, où je suis souvent.
Au quatrième mur,
quatrième
à Bordeaux.
Mur, donc la table de 10 couverts, où les cuisiniers font la cuisine. Je suis devant la table. Parfois, les gens me demandent ce que je fais. Ben, je dis rien. Je fais rien. Et c'est quand je fais rien que j'ai fait mon travail, justement. Parce qu'aujourd'hui, mon travail, c'est de faire passer les messages, c'est de transmettre et de former. Et c'est ce que je dis, si je devais être derrière le fourneau, c'est qu'il y aurait un problème. Moi, aujourd'hui, je me plais justement à former mes collaborateurs, à déléguer, à les responsabiliser aussi, à faire passer les messages et à faire passer mon état d'esprit, ma cuisine. Je ne suis pas derrière les fourneaux, c'est pas vrai. Je ne suis pas à 100% dans mon restaurant aujourd'hui, c'est pas vrai. J'y suis quand même à 70% malgré tout. Je suis assez présent.
Quand vous voyez un truc qui ne va pas, bang, comment vous faites dans vos restos? Parce que ça doit arriver aussi.
Non, alors, effectivement, il y a cette image. Les gens sont surpris de voir le calme qui règne dans la cuisine. Il n'y a pas un bruit, c'est rodé. Ça tourne, c'est carré. Il n'y a pas besoin de crier. Et à un moment donné, je n'ai pas besoin de crier. Un regard suffit.
Voilà. Ah, un regard.
Tu m'étonnes.
Avec le couteau aussi, avec le couteau à la main.
Montrez-nous ce regard. Philippe Echevès, quand vous n'êtes pas content, c'est comment un regard?
Dis-lui un truc qui l'énerve.
Ça va être comme le langage des signes. Il y a un coup qui va nous comprendre. Ouais.
Non, mais montrez-nous un regard qui fait peur.
Ah, mais je ne sais pas, on n'est pas en condition. Là, je peux pas.
Attendez, une petite phrase du style avec le foie gras, les cornichons ou pas?
Pourquoi pas? Tout est possible.
À l'époque, vous avez des problèmes quelques jours avant l'ouverture de ce restaurant à Bordeaux, le 4e mur, parce que vous aviez fait une carte trop sophistiqué, vous en êtes aperçu 3 jours avant, vous avez tout changé.
Putain, vous êtes bien informé, vous dites.
Non, boss.
Alors, c'est pas que j'avais fait une carte trop sophistiquée, je l'avais extrêmement simplifiée, bien au contraire. Et pour remercier tous les artisans qui avaient travaillé sur le chantier, j'ai tous invités. Seulement, ils sont tous arrivés en même temps. En 10 minutes, il y avait 120 couverts. Une équipe qui ne se connaissait pas, un nouvel établissement, moi qui étais aussi là, qui le volume, ben, j'avais jamais trop fait non plus. Je pensais avoir fait quelque chose de simple, mais en fait, ça ne l'était pas. Et on a pris un bouillon, mais comme jamais, c'était un carnage. Et là.
Un carnage, c'est-à-dire c'était pas bon, c'était pas prêt.
C'était pas bien. Pour moi, en tout cas, c'était pas bien, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Et je sais que ça n'allait pas. Et j'ai eu de la chance finalement, parce que je me suis fait mon cauchemar. Ce que je fais aux candidats de cauchemar, quand je leur remplis le restaurant, je les fous dans la merde, involontairement, je me le suis fait. Ah. Mais la chance que j'ai eue, c'est que ça a été représentatif de ce qui allait se passer après. Et ça, je ne l'avais pas envisagé. C'est-à-dire que le premier jour d'ouverture, une heure avant d'ouvrir, il y avait la queue jusqu'au grand hôtel en face. Et ça, je ne l'avais pas envisagé.
Vous avez le trouillomètre à zéro malgré tout.
Jamais eu peur de ma vie comme ça.
Mais pourquoi?
Pourtant, j'ai fait des trucs. Même ma femme, elle m'a pas reconnu. Elle m'a dit, je ne t'ai jamais vu comme ça. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours. J'étais inquiet, j'avais mal au ventre. On a changé la carte 2 jours avant d'ouvrir. On a tout changé. J'ai appelé les mecs, j'ai dit, on change tous les gars. Et heureusement, on a bien fait. Ça a été un bon système. Enfin, c'est un bon concept en tout cas aujourd'hui. Et une fois de plus, j'ai eu la chance de vivre cette expérience qui m'a fait changer tout de suite de stratégie, quoi. Et ça a été très bénéfique. Mais j'ai vraiment eu peur.
Vous avez sympathisé avec Gordon Ramsay, qui est le créateur de cette émission Cauchemar en cuisine.
Non. Absolument. Et qui s'est installé comme consultant juste en face. Scénario improbable.
De votre restaurant à Bordeaux.
Gordon Ramsay au Grand Hôtel, Philippe Echevès au Grand Théâtre. C'est un truc de dingue. On l'aurait jamais écrit, ce truc-là. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il est venu 2 jours quand il a ouvert le restaurant et il est venu manger le dernier jour en cuisine. J'avais pas ouvert la table d'hôte encore.
On doit être stressé quand on a Gordon Ramsay qui vient manger chez vous, non?
Pas stressé, mais c'était un vrai plaisir de le rencontrer. Vraiment, parce qu'on a échangé, on a parlé de plein de choses, de cuisine, de sport, de la vie, de plein de trucs. Puis Gordon Ramsay, il a une dimension internationale. Je veux dire, c'est waouh, quand même. Mec, il a 32 restaurants dans le monde, il est connu mondialement. Ouais. Moi, je suis tout petit à côté, quoi. Bon, après, moi, la chance que j'ai, je joue à domicile. C'est mon avantage que j'ai. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de le rencontrer, d'échanger avec lui.
Alors, votre femme, vous l'avez rencontrée dans une boucherie au marché?
Marché Victor Hugo à Toulouse, ouais.
Ouais. Et alors maintenant, elle est votre bras droit, votre assistante, elle organise tout pour vous. Et c'est elle qui fait la cuisine?
À la maison, ouais. Ouais, absolument.
Et ça, vous n'auriez pas pu épouser une femme qui ne savait pas faire la cuisine?
Vous savez, on ne choisit pas par rapport à la cuisine, hein. On choisit par rapport à bien d'autres choses. Mais non, et puis c'est vrai que je ne cuisine pas trop à la maison, à part qu'on reçoit du monde, mais sinon je me laisse
plutôt faire. Mais c'est vraiment, c'est le cas de tous les chefs, c'est dingue. Ils disent souvent que chez eux, ce n'est pas eux qui cuisinent ou ils n'ont pas envie.
Donc je ne suis pas une exception.
Non, c'est parce que c'est considéré comme du travail, c'est plus du...
Peut-être. On a l'impression d'être encore au boulot.
Et elle cuisine bien, au moins, votre femme?
Oui, elle dit que non, mais elle fait bien à manger. Hier soir, elle m'a fait un petit gratin de courgettes avec des pâtes et des truffes. Alors, il y a des truffes du jardin. Attention.
Ah ouais, carrément.
Truffes du jardin, à la campagne. On a notre petite chienne, Nina, qui se trouve les truffes.
C'est vrai?
Ah, mais c'est incroyable. Incroyable, une petite chienne. Alors c'est Dominique, c'est ma femme qui l'a dressée justement. Ouais. Elle nous a trouvé 3 belles truffes hier. Et hier, on s'est fait un gratin de courgettes, spaghettis et truffes. Et fromage râpé dessus, bien sûr.
Alors, votre père était chef de cuisine.
Oui.
Et vous dites que ça rigolait pas.
Ah, mon père, c'était pas un grand bavard. Hein. C'est un gros travailleur. C'est vrai que mon père a passé toute sa vie dans les cuisines. Voilà, il nous a pas élevés, hein, c'était ma mère qui était en charge de ça. Mais moi, j'admirais mon père par la force de la capacité de travail qu'il avait. C'était incroyable. Il m'a appris ça, il m'a appris ces valeurs-là, notion du travail bien fait,
du respect aussi.
Mmh. Essentiel, ce qui fait que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas un hasard non plus. Ça fait partie d'une éducation, des choses de la vie finalement. Et puis voilà. Mais moi, j'ai connu mon père tout le temps. Cuisine.
Ça,
il a 77 même. Il continue. Il est fou.
Mais vous dites qu'il vous a appris la discipline, mais c'est aussi lui qui vous a donné le goût de la cuisine.
Aussi, ouais. Forcément, quand j'étais gamin.
Vous étiez à 13 ans, vous étiez en cuisine avec lui.
Même avant ça, j'allais travailler avec lui en cuisine. Je voulais aller le voir. Alors, est-ce que c'était un moyen de passer un peu de temps avec lui? Peut-être, je ne sais pas. Inconsciemment, c'était peut-être ça. C'était un moyen de passer du temps.
Il est fier de votre réussite, de votre père, j'imagine.
Je pense. Vous savez, on est taiseux à la maison.
Il vous l'a pas dit.
Vous savez ce qu'il m'a dit, mon père, quand j'ai été meilleur ouvrier de France? J'avais 33 ans. Donc, je l'ai appelé suite au résultat, et c'est la première fois que je l'ai entendu dire qu'il était fier de moi.
Ah, il est pudique.
Ouais, très. Alors forcément, ça touche.
Ouais.
Quand vous entendez ça de votre père.
Il vous a dit, je suis fier de toi.
Ouais.
Et depuis, vous ne l'avez pas redit.
Et là, j'ai pris une claque. Non, mais il ne me le dit pas à moi, mais il le dit toujours aux autres. C'est ça, c'est chez nous, on est comme ça en fait. On ne dit pas assez les choses directement aux personnes concernées, mais on le dit beaucoup aux autres.
C'est quoi les grandes qualités pour être un grand chef, Philippe Etchebest? De la finesse, du travail,
je pense que c'est du travail, beaucoup de travail, bien évidemment.
Tout le monde ne veut pas être un grand chef.
C'est être à l'écoute. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il y a pas de secret. Alors, on m'a souvent dit par rapport à tout, je fais beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vrai que je ne fais pas que la cuisine, j'ai fait du sport, j'aime la musique, je fais plein de trucs. En fait, j'ai besoin de ça. C'est ce qui me nourrit.
Il paraît que même chez vous êtes hyperactif et votre femme vous dit « assieds-toi sur le canapé ».
Ah, des fois, elle me le dit aussi. Ouais.
Détente. Parce que même chez vous, vous faites plein de trucs.
Quand je suis à la campagne, je vais... allez, gentil de dire ça, mais quand il lui faut des paddocks pour ses chevaux, planter les piquets, c'est moi qui le fais en attendant. Hein. Moi qui vais planter les piquets à la main, là, avec le pieu et puis la cloche.
Allez-y, déchargez-vous, là. On va l'appeler, d'ailleurs.
À la bonne mine, après, dire repose-toi, tranquille. Non, mais plus je pourrais vous en raconter, hein, parce qu'elle m'en a fait. Ah, mais il faut faire les tables, il faut mettre le...
Oh là, j'ai la même, hein, je sais ce que
c'est. Comment vous limitez votre femme?
Non, mais...
Vous allez le faire engueuler sans rentrer. Hein.
Non, mais je l'adore. Hein. Sinon, ça ne fait pas 22 ans que je suis... Même plus de 24 ans que je suis avec elle.
Léa Landau a des questions à vous poser, Philippe Etchebest.
Oui, Philippe Etchebest. Après Cauchemar en cuisine, vous allez vivre Cauchemar en interview.
Ouais.
N'hésitez pas à me répondre que ce n'est pas mes oignons si je vais trop loin, d'accord, Philippe
Etchebest? D'accord,
Etchebest.
Pas de problème.
Quelle est votre plus grosse casserole?
Ma plus grosse casserole? Comme tous, on a des échecs, mais j'en ai toujours tiré quelque chose de positif pour réussir derrière. C'est pour ça que ça m'a... Je sais pas de
que vous ne voyez pas comme une casserole.
Je vois pas comme une casserole, en fait.
Être un bon chef, vous pensez que ça peut aider à faire passer quelques femmes à la casserole?
Ah.
C'est
oui.
Pour...
Oui. Ouais. Oui. Parce que... Ah ben oui, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ma femme, je l'ai séduit avec
une casserole.
Non, mais du chocolat.
Ah, vous lui avez offert des roses en chocolat.
Ah oui, vous ne l'avez pas dit, celle-là. Ouais. Je sais que vous le saviez. Je lui ai offert des roses en chocolat.
Ah.
Ouais, absolument. Elle a craqué.
Ah bah c'est pas vous qui les avez, c'est pas vous qui les avez faites, ces roses?
Mais bien sûr que oui.
Ah
bah attends, c'est encore
trois
plus,
heures à faire le bouquet l'après-midi.
Ah ouais.
Ça c'est classe.
Et elle a tout mangé en 3 minutes.
Je pense que c'est classe. Ouais.
Est-ce que votre fils range aussi bien sa chambre que vous rangez votre cuisine, Philippe Etchebest?
Ah putain, non.
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 Comment vous faites?
Je lui dis, range ta chambre. Ça veut dire range ta chambre. C'est un carnage.
Et alors, il la range pas?
Oui, s'il l'a fait. Oh, si.
Ah oui, avec votre regard.
Si, il le fait. Mais faut lui dire.
Ouais.
Moi, on n'avait pas besoin de me le dire. Elle était rangée, ma chambre.
Dans vos relations avec les autres, Philippe Etchebest, vous êtes du genre à mettre les pieds dans le plat?
Peut-être. Ça doit m'arriver. Ouais. Ça doit m'arriver.
Quelle est la dernière personne à qui vous avez dit va te faire cuire un œuf, Philippe Etchebest?
Je crois que ça va être toi.
Mais... Il aurait raison.
N'hésitez pas à lui dire, allez à Lando, va te faire cuire un œuf. Ça ne nous dérange pas, Philippe Etchebest.
Si un Manoff était un plat, Philippe Etchebest, ce serait lequel?
Un Saint-Honoré.
Ah ouais? Pourquoi?
Voilà. Mais parce qu'il y a de la gourmandise, il y a de la générosité, c'est...
Voilà, il y a du caramel.
Caramel, chantilly.
C'est goûtu.
C'est gourmand. Ah ouais. C'est raffiné.
C'est raffiné.
Bien sûr.
Et sucré. Tout le monde en raffole.
Mais absolument. Et moi le premier.
Merci Philippe Etchebest.
Bien joué.
Alors, Kamel Wally a déclaré que plus de 1000 artistes ont été auditionnés à Paris et à Londres. Des auditions géantes qui ont duré parfois 10 heures où danseurs, chanteurs, comédiens, attractions venus du monde entier ont fait part de leur talent. Qu'est-ce que ça vous fait, Iris Mittena, d'être la star d'un show? Il n'y a que les meilleurs des meilleurs.
Ça met la pression. Franchement, ça met la pression parce que la première fois que je les ai rencontrés, ouais, je me suis dit, oh là là, ils vont me juger. Est-ce que je vais être à la hauteur? Et finalement, maintenant, il y a une vraie ambiance de famille, donc c'est plutôt cool.
Ils vous ont donné des conseils?
Ouais, beaucoup de conseils.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ils m'aident énormément. Tous les soirs, il y a un chanteur qui fait partie de la troupe qui vient m'aider, Cyril, qui revoit avec moi toutes mes chansons. Les danseurs aussi, dès que j'ai un problème, ils m'encouragent. Quand on a des petits problèmes techniques, ils sont en train d'hurler dans les coulisses pour nous donner de la force. Donc non, vraiment, c'est hyper cool.
Il y a une bonne ambiance.
Ouais, complètement.
Vous habituez à danser sur des talons de 15 cm avec 12 kilos de plumes sur le dos? Et puis, qu'est-ce que ça vous fait de danser sans avoir Jean-Marc Généreux qui hurle à vos côtés?
Ouais, c'est vrai que de ne pas avoir de notes tous les soirs, c'est plutôt sympa.
Ouais.
Parce qu'on est beaucoup plus détendu. Mais après, ouais, c'est difficile parce que j'ai des bleus en permanence sur les clavicules avec les Gabriel et les plumes. Mais bon, c'est une bonne douleur, on va dire.
Qui c'est Gabriel?
Et ouais, il y a quelqu'un de
il vous donne de la
mais Gabriel, c'est expliqué. Iris Mittena, c'est un culte.
La lourdeur du gars. Oh là
là. Gabriel, c'est une énorme... un cercle de plumes dans mon dos.
D'accord.
Même comme un petit sac à dos, mais de plumes.
On continue parce que je vais me faire voler dans les Gabriels. C'est pas comme ça.
Mal, Iris, vous dites aussi que le fait d'être Miss Univers, ça impressionne les hommes. Il y en a qui n'osent même pas vous
pas
draguer.
Tous, hein, pas tous, pas
oui,
tous.
Oui. Non, ils font ça pour rire, en fait. Ils font ça parce
moi aussi,
que...
les hommes me draguent pour rire.
Ouais. Non, mais du coup, il y avait très peu de dragues sérieuses. Non.
Il y a très peu qui osent, en fait.
Qui osent, ouais. Qui osent et qui le pensent sincèrement et qui essaient vraiment de me connaître.
Bah, déjà, je bégaye devant Christine, excusez-moi.
Et c'est très bien. Continue de bégayer, s'il te plaît.
Et Miss Univers aux États-Unis, quand vous êtes arrivée, il y a des hommes qui étaient là. Ça doit fasciner quand même, non? Surtout quand vous avez été nommée, il n'y a pas eu de...
Oui, ça fascine. Mais moi, je le comprends parce que moi aussi, quand j'étais pas Miss Univers, quand j'étais pas Miss du tout, c'était un truc un peu étrange pour moi, Miss Univers. Et c'est vrai que c'était plus un titre qu'une fille, finalement. On parle de « Ah, elle se prend pour Miss Univers ». Finalement, on parle du titre plus que de la fille derrière le titre. Donc ouais, c'est ça qui est impressionnant.
Vous dites que même Miss France, à un moment, vous êtes sentie très seule. Même votre grand-mère a changé. Quand vous êtes arrivée chez elle, elle a dit « Oh, j'ai Miss France dans ma cuisine ».
Oui, c'est ça.
Et vous lui avez dit « Ben non, c'est moi, mamie ».
C'est ça, elle m'a dit « C'est incroyable d'avoir Miss France à la maison ». Je dis « Mais c'est moi, je suis déjà venue, c'est Iris ». Et c'est vrai que des fois, ce titre... un petit peu. Ouais.
Et vous dites que quand vous êtes arrivée à Paris comme Miss France, vous avez été à un moment même limite en dépression, vous n'étiez pas bien, vous osiez le dire à personne parce que tout le monde disait t'as de la chance, c'est formidable et tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus vos amis, vous n'avez plus votre entourage?
C'est compliqué de dire aux gens je suis malheureuse alors que pour les gens on a tout. On a tout, on vit à Paris, on porte des robes magnifiques, on a énormément de cadeaux. C'est difficile de dire ouais, mais quand je rentre chez moi, je suis seule. J'ai pas envie, j'ai plus le temps de voir ma famille et c'est dur pour les gens de comprendre, du coup on le dit pas. Et moi, ma mère, quand elle me disait ça va, je disais oui, tout va bien, tout se passe très bien. Je pouvais pas dire à ma maman qui a travaillé dur toute sa vie pour avoir le peu de choses qu'elle a, que moi, dans ma vie de princesse, j'étais pas très heureuse.
Et maintenant, vous êtes heureuse, Iris Mittena?
Oui, maintenant je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je peux faire ce que je veux, parce que je réalise mon rêve de petite fille aussi tous les soirs.
Et ouais, paradis latin.
Je m'éclate et je choisis de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, donc c'est cool.
Ah, vous y êtes, elle est heureuse, Laurent Barra.
Vous voulez un Doliroom? J'en ai parce que.
Oh, mais quel canard!
Moi, je suis.
Ça... Allez, c'est la technique du canard. Coin.
Quoi de plus sincère que vous proposer un Doliroom? Parce que je vois.
Demandez-lui un truc, il va vous l'apporter.
Je vais vous l'envoyer quelqu'un, va le chercher dans ma poche.
Est-ce qu'on vous a déjà dragué en vous proposant du Doliroom?
Jamais, c'est une première.
Preuve de ma sincérité.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « Oh, elle n'est pas si belle » ou qu'est-ce qu'ils vous disent les gens dans la rue?
Ouais, des fois, ça arrive, bien sûr.
Ah oui?
Ah, elle n'est pas si grande que ça, parce que c'est vrai qu'en fait, je ne suis pas si grande que
vous
ça.
Vous mesurez combien?
Je fais 1m72,7. Et c'est vrai que les gens s'imaginent me voir à 1m80 de hauteur, ce n'est pas le cas. Et oui, bien sûr, il y a des gens qui me disaient, elle est pas si belle que
moi,
ça.
Moi, c'est mais... ce qu'on me dit, moi, elle est moins moche qu'à la télé. Ah.
Non,
c'est
vrai,
c'est... Oui, c'est le contraire. Oui, mais...
Vous devriez vous balader toutes les deux pour voir un peu. Oui.
Vous avez failli être dentiste, mais vous êtes arrêté carrément en cinquième année.
Oui,
c'est quand même dommage, j'ai resté qu'un an et demi.
Oui,
vos parents, ils n'ont pas gueulé quand même?
Si. Mais mon père, déjà, quand je lui ai dit que je faisais un concours de Miss, il a un peu gueulé. Et je reprendrai peut-être un jour, pas maintenant, parce que j'ai plein de belles propositions.
On peut arrêter... les études et puis reprendre.
On peut arrêter et reprendre, mais après je pourrais peut-être pas reprendre en cinquième année. Je vais peut-être devoir reprendre.
Parce que vous avez oublié. Vous avez oublié la. Vous avez oublié la dentisterie là ou.
Dentisterie.
Bah, oui, c'est ça.
Ouais,
c'est
la dentistation.
Non, c'est ça. La dentisterie. Non, ouais, j'ai un peu oublié certaines
vous
choses.
Vous aimiez ça, soigner les dents.
Ouais.
Ah oui.
J'adore ça. Ouais.
Ah oui. Ouais. Quand vous rencontrez un homme, vous regardez sa dentition.
Je regarde un peu les dents.
Il sourit, cet abruti. Il est là, il a montré ses canines. Eh ben ouais.
Vous noterez,
cet abruti.
Vous noterez, Iris Mittenaert, que Laurent Barra a les dents du bonheur.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et ouais. Je suis, oui, j'ai les dents
et
du bonheur.
Et t'es heureux.
Je suis heureux. Et
ça y est, il te tutoie.
Bah bien.
Elle te tutoie. Bah,
mais non, mais avec plaisir, avec plaisir.
Il est vraiment en train de se passer quelque chose là. Mais oui, en fait.
Iris, je veux pas raconter des bêtises, mais ça pourrait être votre père en termes d'âge. Hein,
j'ai 40 ans.
Oh non. Vous avez quel âge, Iris?
J'ai 26 ans.
Alors voilà.
14 ans d'écart.
C'est la maturité, voilà.
La maturité, dans du bonheur et puis.
Et puis il est rassurant comme garçon.
Exactement.
Il a pas de travail, il a pas de femme.
Très très bonne situation.
Célibataire. J'ai connu quelques mes aventures.
Financièrement, il fait rêver Laurent Barra, vous allez voir.
Célibataire, c'est pas vrai, il est sur un dossier en ce moment.
Mais,
ah.
Bah, voilà. Mais il était avec une dentiste.
Oui,
ah,
mais c'est vrai.
Il est resté avec une dentiste de Jouant les
Pins. On peut parler ou vous me faites la fiche Wikipédia? Bon, alors ce qui s'est passé, c'est que.
Voilà,
bon,
regardez comment il va se défendre, c'est maladroit, vous allez voir, c'est
soit,
très touchant.
Je n'y sois, et c'est vrai que je redescends souvent sur Nice, et j'ai eu une petite liaison avec une dentiste. Bon,
voilà, ça fait rêver. Belle entrée en matière.
Et là, sur Copain d'Avant, un site que.
Copain d'Avant, le site des années 90.
Tu vas déjà. Laissez-moi parler. J'ai retrouvé mon amour d'enfance. Mais bon, elle est divorcée, ça sent le bordel. Donc je vais. Sandra, c'est terminé, on arrête tout. Remets-toi avec ton ex. Non, mais je veux du stable, je veux de l'Île-de-France maintenant. C'est fini.
Je veux de l'Île-de-France, mais.
C'est horrible. Mais t'es nul. T'essayes de plaire à Miss Univers et tu dis je veux de l'Île-de-France.
On se croirait dans Maison à Vendre, Stéphane Plaza.
C'est pas de la géolocalisation, c'est de la séduction.
Alors je veux du centre-ville. Près des
commerces. Je voulais dire.
Bien pour 3 secondes, tu avais demandé combien il y a de mètres carrés chez elle. C'est d'une lourdeur.
Est-ce que la salle de bain est refaite?
Non, mais si vous me trouvez un tantinet sympathique avec tous ces lourdeaux là, c'est que vraiment je dois être très sympa, parce que vous voyez, dépeint un portrait de moi.
Je vais vous voir en une de voici tous les deux, ça va être quelque chose.
Ça paiera mes grands-parents. Non, mais
elle a pas l'air d'elle, elle veut pas. Ah. Ah, elle a fait une petite grimace, oui, et on disait non.
Bah, la une de voici, on n'a jamais vraiment envie de la faire.
On n'a jamais vraiment envie de la faire.
Ah,
exactement.
Mais le week-end avec Laurent Barra, pourquoi pas?
Ah, on verra.
Il paraît que vous êtes poursuivi. Iris, c'est pareil, vous êtes poursuivi par les paparazzi, c'est insupportable.
Je vais leur casser la tête. Vraiment.
Ouais, un peu. Là, ça va en ce moment. Il me laisse un petit peu tranquille, mais oui, sinon.
Et vous les voyez quand ils vous poursuivent, je veux
dire? Oui, on les voit. Ils nous poursuivent vraiment en moto. Ils nous suivent un peu partout. Et ouais, on les voit la plupart du temps.
Et vous leur avez déjà parlé, comme un jour a fait Sophie Marceau
Non, je leur ai jamais parlé parce que c'est vrai qu'ils me font un peu peur, donc je m'éloigne le plus vite possible. J'entre rarement en confrontation avec eux. Ouais.
Oh, mais là, avec Laurent, ça va être plus calme.
Ils viendront pas nous emmerder dans le métro. J'ai un passe Navigo. Ligne 7, la Courneuve.
Nickel.
Iris Mittenaert, Jean-Philippe Bizigny a des choses à vous dire.
Oui, Iris. Parce que quand on m'a demandé de faire votre portrait à la maison, ma femme m'a fait une crise de jalousie. Parce qu'elle a peur qu'entre nous, il se passe quelque chose.
Non, mais on la rassure, hein, tout va bien.
Ah, ça va, toi ?
Tout va très bien.
J'ai honte.
Tout va très très bien.
En même temps, je la comprends car vous et moi, nous avons énormément de points communs.
Eh ben.
Vous racontez que quand vous étiez enfant, vous aimiez beaucoup vous déguiser en princesse. Et ben moi aussi, j'aime. Mais ça va, voilà, faut vivre avec son temps, même si je préfère pas trop en parler ici à la radio. Quand vous étiez petite, on vous surnommait le clou. Parce que vous étiez très mince. Oui. Et ben moi aussi, ma femme, elle trouve que j'ai une partie du corps qui ressemble à un clou. Mais ça me gêne de vous le montrer en public.
Oui, oui.
À 7 ans, vous souhaitiez devenir dentiste. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, j'aurais tellement aimé passer mes journées à mettre mes doigts au milieu des lèvres. Non, on s'égare. Vous avez été élue Miss France et ensuite Miss Univers. Eh bien, moi aussi... Les concours de beauté, je connais bien. J'ai été élu Mister Camping à Saint-Aigulf en 1998. Et ensuite, après votre règne, vous vous engagez notamment pour le brossage des dents des enfants. Ça vous tient à cœur. Alors moi, j'ai deux enfants à la maison. Et ben, je peux vous dire, c'est très compliqué de les obliger à se laver les dents. On les a emmenés chez le dentiste. Il leur a soigné toutes les caries qu'ils avaient. Il nous a prescrit un dentifrice à l'eau de Javel et au vinaigre blanc. Il m'a dit apparemment c'est la seule chose qui pourrait faire un jour qu'ils aient à nouveau les dents blanches. J'ai une fille de 14 ans, alors elle a besoin d'un appareil dentaire parce qu'elle a les chicots dans tous les sens. Elle a les dents, comment vous dire, on est allé aux eaux de Touhari. Il y avait tous les castors qui suivaient ma fille, ils pensaient que c'était leur mère. Ah ouais, ma fille, elle a des dents, je vous assure. À Noël, pour ouvrir les huîtres, quand on n'y arrive pas avec le couteau, c'est ma fille qui fait avec les dents, tu vois. Le dentiste, il nous a fait un devis pour lui faire poser un appareil. Ça coûte une fortune. J'ai dit à ma femme, laisse tomber. On va aller chez Leroy Merlin, c'est la semaine du bricolage. Je vais acheter des outils, on va lui refaire les chicots nous-mêmes. Rappelle-toi, l'été dernier, la clôture du jardin, elle était toute tordue. Bah, à force de taper dessus, maintenant, elle est nickel. Voilà, alors Iris Mittenaer... Est-ce que vous voulez bien venir chez moi pour coacher mes enfants parce que moi, j'y arrive plus du tout. Oui, elle a dit oui. Bon, il faut que je prévienne ma femme.
Il a l'air d'avoir du boulot quand même, ça fait un peu peur.
Bon, je vais prévenir ma femme parce que quand je veux lui dire qu'il y a Miss Univers qui vient à la maison, ça va encore faire toutes des histoires.
Ben H a des choses à vous dire, Iris Mittenaer.
Oui, tout à fait. Oui, je suis allé voir l'Oiseau Paradis la semaine dernière. Ouais, tout à fait. Pour tout vous dire, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai pas du tout de culture cabaret à la base. Je pensais même que quelque part, ce n'était pas fait pour moi. Et là, il y a une assistante de l'émission qui me dit bah, « En gros, tu dînes très bien devant des femmes qui dansent à moitié nues plus Miss Univers. Oh » Ok, ce truc-là est absolument fait pour moi. N'en jette plus, balance l'heure et l'adresse immédiatement. Et grand bien m'en a pris. J'ai découvert un nouveau monde extraordinaire. Le show n'a même pas commencé qu'une chanteuse et des danseurs au costume incroyable accompagnent le début du repas. Perso, c'est la première fois que je voyais un zèbre et un lion danser sur du Adèle sans avoir pris la moindre pilule. Incroyable. Au-delà du résumé de ma collègue qui a su trouver les mots juste pour me tenter, j'ai assisté à un show de plus de 3 heures, dont 2 passées avec vous, Iris Mittenaer, en meneuse de revue d'une troupe hallucinante de talent et de beauté. Tout le monde est hyper beau. C'est incroyable. Tout le monde très très beau. Si mon hétérosexualité n'est plus à démontrer, je vous cache pas qu'il y a même un ou deux danseurs qui pourraient toucher dans un moment d'égarement, ma curiosité, voire même ma prostate. Bref. Et puis, il faut le dire, c'est hyper sexy, mais il y a des tableaux dans le show qui sont même carrément brûlants de sensualité. Un quart de personnes âgées étaient assises sur les tables d'en face. Sur la scène de la baignoire, j'ai cru qu'on allait en perdre 2 ou 3. Hein, déjà que sur l'apparition d'Iris Mittenaer, on a compté 3 fractures de l'œil sur la table de derrière. Hein. Je le dis d'ailleurs ce midi pour les gens qui nous écoutent, l'œil humain de l'individu mâle moyen n'est pas préparé du tout à voir Iris Mittenaer dans les tenues de meneuse de revue d'aussi près. Hein. Et puis si en plus elle chante et elle danse. Bref, le paradis latin n'a pas fait les choses à moitié pour sa nouvelle revue à l'occasion des 130 ans du plus vieux cabaret de la capitale. Kamel Wally a fait un travail de mise en scène impressionnant, son, lumière, effets spéciaux, humour. C'est hyper rythmé, c'est chic, c'est sexe. On ne voit pas le temps passer. Et ça répond en bonus à une grande question que beaucoup de gens se posent, j'en suis certain. Mais que devient Cyril Sinélu, vainqueur de la Star Academy 6? Eh bien, il est très présent dans l'Oiseau au paradis. Il y chante et rien qu'avec sa toute première note dans le spectacle qui est bluffante, on se rappelle déjà qu'à l'époque, il le faisait très bien. Alors pour résumer, pendant 2 heures de show, Iris Mittenaer, vous êtes l'oiseau paradis. Et depuis ma petite place à moi, j'ai volé avec vous pendant ces 2 heures. Merci.
Merci beaucoup. Vous avez une petite pharyngite, Ben H.
Comment ?
Oui, vous avez un petit chat dans la gorge.
J'ai du dolirume, s'il veut, celui-là aussi.
J'ai un chat dans la gorge ?
Oui, voilà, vous étiez impressionné par Iris, je ne sais pas.
Je suis totalement pas bien. Et pourtant, j'en ai fait des invités. Hein. Mais là...
Et votre maman vous a vu sur scène au Paradis Latin ?
Oui.
Et alors ?
C'était dur parce qu'en fait, déjà dans les loges, je me suis dit, ma maman va pleurer parce que c'était vraiment mon rêve de petite fille de faire ça. Et je passe en fait entre les gens, entre les tables pour arriver. Je passe à côté de ma mère qui en pleure et c'était hyper dur pour moi de garder mon sérieux, de continuer à chanter parce que j'avais envie de pleurer en fait, de la voir comme ça.
Vous êtes très proche de votre mère, Iris Mittenaer.
Je suis très proche d'elle, oui. Je suis très proche d'elle et elle est là, elle est présente à chaque fois pour les moments importants de ma vie. Et là, elle était là Et ouais, c'était un beau moment finalement, c'était une salle pleine, mais je pense que la première chanson, c'était pour ma mère.
Alors vos parents sont séparés quand vous avez 3 ans, oui. Et vous les avez réunis pour la première fois lors de votre sacre de Miss France. Mm. C'est une belle image ça quand même.
Ouais, on a passé le premier Noël ensemble depuis que j'avais 3 ans, donc j'avais pas vraiment connu de Noël avec mes deux parents quand j'étais Miss France, donc je pense que ça a aidé à rapprocher ma famille. En tout cas, moi j'ai pu avoir des souvenirs assez dingues avec mon père et ma mère du coup, que j'avais jamais connus ensemble.
Grâce à Miss France.
Grâce à Miss France, ouais, première photo avec mes parents réunis pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc ouais, c'était, je pense, c'est mon plus beau cadeau, c'est d'avoir pu réunir mes parents autour de moi pour ça.
Il paraît qu'à Miss Univers, vous avez séduit tout le monde avec la recette du bœuf bourguignon. Mm. Et en fait, il paraît que c'était du pipeau.
Complètement, complètement.
Quelle honte.
En fait, je l'avoue, il n'y a pas longtemps, j'ai jamais fait de bœuf bourguignon de ma vie. Chez moi, on fait de la carbonade flamande, donc je ne sais pas faire le bœuf bourguignon, mais je ne pouvais pas dire à Steve Harvey carbonade flamande, ça aurait parlé à personne. Donc j'ai dit que je faisais du bœuf bourguignon, que c'était mon plat préféré, et c'était complètement faux.
Tout mais ça s'est bâti sur un mensonge.
Et ouais, malheureusement.
Mais elle a gagné l'élection parce que c'était la plus belle.
Et voilà. Ah bah, j'en doute pas.
Et dans un costume emprunté au Moulin Rouge.
Exactement.
Donc, quelque part, c'était un peu prédestiné.
C'est ça. En fait, il y avait pas mal de signes pour me dire qu'il fallait faire cette revue et je pense que ça en faisait partie.
Et Laurent Barra.
Qu'est-ce que vous dites?
Vous avez quelque chose à dire pour conclure cette émission?
Non, vous êtes pleine de sincérité. C'est très touchant. Moi, mes parents ont divorcé quand j'étais jeune aussi.
Oh là 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 là. Voyez,
la tristesse.